Bertrand Chamaillou, bonjour.
Bonjour.
Vous jouez chaque année à la Roque d'Anthéron depuis 15 ans, pourquoi ?
Presque chaque année, il y a eu quelques exceptions. Tout d'abord parce qu'on a commencé par m'y inviter. Et j'en suis d'ailleurs toujours flatté, puisqu'aujourd'hui c'est quand même ce qu'on appelle populairement la Mecque du piano. Et à juste titre, parce que c'est un des plus grands festivals de piano du monde. Tous les grands pianistes passent ici. Mais de façon plus personnelle, il se trouve que quand j'étais petit, quand j'ai commencé le piano, j'étais venu plusieurs fois avec mes parents passer des vacances dans la région. Donc on était venu assister à quelques concerts. Et j'ai encore vraiment presque des frissons en pensant à ces moments-là, qui étaient pour moi des événements réellement magiques. Enfin, ces concerts en plein air avec des cigales. Quand on rentre dans ce parc, il y a un côté monde enchanté un peu, avec ces arbres séculaires. Et quand on ressort de là, on se pose un peu la question si c'est bien réel ou pas.
Et vous avez choisi de rejouer cette année un récital qui vous a fait connaître il y a 15 ans.
Alors oui, c'est la première fois que je fais ça. J'ai ressorti des vieux cartons avec des vieux programmes. Et j'ai décidé, oui, c'était un programme un peu porte-bonheur il y a une quinzaine d'années, qui a fait l'objet d'ailleurs de mon tout premier enregistrement, les 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt. Et je me suis dit, tiens, je vais faire comme un retour un petit peu sur ça, voir après 15 ans comment j'ai pu moi-même évoluer par rapport à ces textes.
C'est très exigeant physiquement ?
Oui, c'est de l'ordre de la performance physique réellement. Enfin, les 12 études d'exécution transcendante, c'est un peu le 110 mètres pendant 10 km d'affilée, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de moment de repos. Et c'est une succession quand même d'acrobaties pendant une heure, voilà. Liszt a repoussé quand même énormément de limites. Alors, l'histoire de la virtuosité, c'est pas simplement, dans son cas, impressionner la galerie. Ça va bien au-delà, c'est-à-dire que c'est une invention d'un répertoire de gestes pianistiques qui n'existait pas jusqu'alors, qui réinvente complètement le son du piano.
Quelles limites repousse Liszt, par exemple, avec le piano ?
Par exemple, ce qu'on appelle une octave au piano, c'est-à-dire on frappe un do puis le do plus aigu, on peut frapper avec la même main. Alors, il a développé, bon, comme beaucoup, hein, ça avait commencé avant, des techniques pour enchaîner ces choses-là, mais lui fait ça, par exemple, aux deux mains ensemble, tout un tas de choses de croisement de mains, c'est tout un répertoire, comme on parle en patinage artistique, des triples loops piqués, des choses comme ça, qui donnent l'impression d'avoir au moins trois mains. Des combinaisons tout à fait inédites, quoi. Et souvent, j'ai été attiré par des compositeurs comme ça qui avaient envie de découvrir des horizons nouveaux, de repousser toujours les limites.
C'est ce qui explique, par exemple, que vous vous intéressiez encore beaucoup à la musique contemporaine et aussi que vous aimiez croiser les disciplines. Si j'ai bien compris, vous préparez par exemple un spectacle avec une amie danseuse qui serait un hommage au compositeur John Cage et au chorégraphe Merce Cunningham.
Oui, c'est tout à fait vrai. Déjà, la musique contemporaine a cessé d'avoir une grande place pour moi. Quand j'étais gamin, je voulais être compositeur, je m'intéressais à des musiques très contemporaines, de Boulez, Stockhausen, etc. Et là, vraiment, j'ai décidé de beaucoup plus m'y impliquer. Donc j'ai passé un certain nombre de commandes, par exemple l'année prochaine, j'ai un grand compositeur allemand qui s'appelle Wolfgang Grimm qui m'écrit une pièce, un compositeur suisse aussi qui m'écrit un concerto qui s'appelle Michael Jarrell. Alors le croisement des arts, c'est l'idée d'avoir de temps en temps des expériences aussi. Je pense que le public de la musique classique est relativement restreint, et le fait de toujours opter pour la même formule n'est pas forcément une bonne chose pour se dire qu'on peut toucher d'autres gens. Il faut laisser des chances à toutes les formes d'art et à toutes les formes d'expression. Il faut leur laisser une chance de s'épanouir en dehors d'un cadre très cloisonné, et pour les gens qui viennent écouter, leur laisser une chance d'essayer de comprendre quelque chose à sa façon. Et si ça ne marche pas une fois, ça marchera peut-être une deuxième fois.
Bertrand Chamaillou, merci.